Face à Duhamel avec ce soir Pablo Pillot-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir Pablo.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Concert de casseroles, huées, insultes des manifestants tenus aussi à distance. Ça devient compliqué les déplacements pour le président de la République. Pourtant, il le dit lui-même, pas question de se planquer, ce que dit aussi son ministre. Il vaut mieux être chahuté que planqué. Devrait-il quand même se planquer, le président de la République, Alain Duhamel?
Non, je ne crois pas. C'est une situation qui est très difficile. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est inhabituel. Bon, dans cette situation, il n'y a pas de solution idéale, mais il y en a qui sont moins mauvaises que d'autres. Je pense que plutôt que de se claquemurer à l'Élysée, de donner le sentiment de s'isoler, de symboliser une forme d'incommunicabilité, si on s'enferme, je pense que c'est préférable d'aller sur le terrain. Alors ça se passe bien dans certains cas, ça se passe très mal dans d'autres. On se fait huer, il y a de l'agitation, ça n'est pas plaisant, mais d'abord, ce n'est pas le premier président, et surtout, ça ne sera pas le dernier. Bon, et puis c'est une des formes, risque, c'est peut-être exagéré de dire risque, mais enfin, c'est une des formes de la démocratie aussi, d'affronter des électeurs, bon, même si ça n'est pas dans des conditions idéales.
Moi, je pense qu'il faut rappeler ce que c'est qu'une... un déplacement présidentiel ou même un déplacement ministériel, c'est une opération de communication. Ce n'est rien de plus. Hein. Je veux dire, si c'est ça oui. qu'il faut pour aller rencontrer les Français, c'est un peu problématique parce que on rappelle que un déplacement présidentiel, ça se fait avec un arrêt au page de sécurité et c'est d'ailleurs normal puisqu'il s'agit du président de la République ou quand c'est oui. des ministres,
c'est
deux ministres.
Préférable.
C'est tout à fait préférable, mais donc c'est pas, ils se déplacent pas, ils vont pas rencontrer les gens comme ça au hasard, etc. Ça n'arrive que rue de Rennes, ils tombent sur des gens qui chantent des chants pyrénéens. Mais là, en l'occurrence, c'est de la propagande. La question, c'est, du coup, faut le juger à cette aune-là. Parce qu'il va pas dialoguer avec les gens, il va pas changer d'avis, Emmanuel Macron, parce que madame un tel ou monsieur un tel aurait dit quelque chose qui serait susceptible de lui faire changer.
On aurait trouvé un argument choc.
Exactement. Donc, c'est une opération de communication. Là, je suis désolé de le dire, mais l'opération de communication est quand même assez mauvaise. On voit les images tournées à la fois sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, on entend les bruits à la radio des casseroles qui résonnent, et on se dit, comment est-ce qu'il va faire pour continuer à mener des opérations de communication du même type pendant les jours et les semaines à venir?
Bon, alors, d'une part, c'est vrai que c'est difficile. Que ce soit une opération de communication, c'est l'évidence, mais c'est toujours comme ça quand il y a des déplacements. Ça n'est pas d'ailleurs le propre du gouvernement. C'est la même chose quand il y a des leaders de l'opposition, des leaders syndicaux aussi. Et quand ils se déplacent, ils ont envie d'être photographiés, d'avoir 10 caméras, etc. Bon, ça fait partie des formes modernes de la vie politique. Bon, je reconnais que ça n'est pas idéal, mais ça ne peut pas être idéal dans les circonstances qu'on vit, qui sont quand même des circonstances complètement atypique. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut aussi se rendre compte qu'on est dans la phase forcément la plus difficile. C'est-à-dire, la loi a été promulguée, elle est très impopulaire, il va y avoir le 1er mai, il y aura encore la dernière décision du Conseil constitutionnel. On est au moment le plus périlleux. Bon, il est assez vraisemblable, en tout cas c'est ce que je crois, qu'ensuite... ça sera progressivement, pas instantanément, mais progressivement différent. Autrement dit, ce qu'il fait maintenant, qui est difficile, qui à certains moments sera négatif, parce qu'on trouvera quelqu'un de très sympathique qui lui donnera des bons arguments. Et, bon, mais ça va être comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis ensuite, on passera à une autre phase.
Et il va repartir très vite à l'étranger. Dès la semaine prochaine, il repart à l'étranger.
Oui, mais enfin, il ne va pas s'éloigner très longtemps, parce qu'il va y avoir le 1er mai et le 3 mai, quand même.
Le problème, en fait, c'est que j'entends en fait, que finalement, Alain, vous vantez le courage d'Emmanuel Macron d'aller au contact.
Alors, c'est peut-être ce que je pense, mais ça n'est pas ce que j'ai dit.
D'accord.
Oui, mais vous le pensez.
Mais vous le pensez.
En gros, j'aime mieux un président qui ose y aller qu'un président qui est la frousse. Alors, si vous voulez me demander mon avis,
mais là.
Plutôt planqué.
Exactement. Mais parce qu'en fait, vous n'avez fait en fait que commenter le fait qu'il soit allé rencontré, entre guillemets, entre très gros guillemets, parce que pour moi, il ne rencontre personne, oui. mais qu'il soit allé au devant de ces Français. Mais
je n'ai fait que ça, parce que c'était la question qu'on m'avait posée.
Exactement. Mais en fait, il faut aussi écouter ce que dit Emmanuel Macron et la foule type, parce qu'il y avait des micros tendus, évidemment. Il a discuté avec ces gens qui manifestaient. Et là, il faut écouter ce qu'il dit.
Mais c'est ce qu'on fait. C'est d'ailleurs notre métier.
Mais qu'est-ce qu'il a dit, alors?
Et c'est là que le bât blesse. C'est là que ça devient très problématique, parce que on voit ce qu'il a dit à propos de Pierre Rosanvallon, qui est quand même professeur honoraire au Collège de France, qui lui a dit je respecte l'intellectuel, mais j'ai peur du militant, ce qui est quand même excessivement problématique, je trouve, de penser ça d'un intellectuel qui se présente intellectuel.
Non,
exactement, et c'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de gens. D'ailleurs, Pierre Rosanvallon, il fut un temps, était plutôt proche d'Emmanuel Macron, donc on pourrait dire qu'il était tout aussi militant lorsqu'il était du côté d'Emmanuel Macron que maintenant, qui pense qu'il dépasse un peu les bornes. Il faut voir aussi ce qu'il dit à propos des oppositions, en disant ils ne font que crier, etc. Tout cela est excessivement problématique. Toutes les petites phrases, en fait, qui sont égrenées au cours de ces deux journées là, puisqu'il était en Alsace et dans
les prisons. Pour vous ?
Exactement, sont excessivement méprisantes et pour moi ne sont certainement pas susceptibles d'apaiser, comme il avait dit que ces 100 jours devaient être 100 jours d'apaisement.
Alors,
100 jours d'apaisement. Méprisant le président Macron ?
Je trouve pas qu'en allant à différents endroits de France.
Non, mais sa façon de répondre, dialoguer.
Non, je l'ai écouté comme vous, parce que c'est notre travail, donc je l'ai écouté pendant des heures et des heures. Il est spontané, ça, il n'y a pas de doute.
J'ai une façon polie de dire que...
Non, il est spontané, mais bon, en plus...
Quand on dit qu'il est spontané, souvent, ça veut dire qu'on n'est pas trop d'accord avec ça.
Attention, parce que mes deux amis vont vous dire que c'est à moi de parler.
Mais c'est à vous.
Mais vous le dites pour nous, c'est bien.
Oui, non, mais je pense que ça marche. Bon, donc, on entend ce qu'il dit. Alors, le fait qu'il critique Rosanvallon, il a parfaitement le droit de critiquer Rosanvallon, d'autant plus que Rosanvallon le critique. Donc, je veux dire, c'est pas en soi Rosanvallon, qui est un sociologue et historien que j'ai beaucoup lu, beaucoup estimé.
Là, il a pas attaqué sur
mais non, mais...
Bah, c'est quand même un problème. Mais
attendez, moi,
sur son statut.
Je suppose que vous avez lu les interviews de Rosanvallon. Rosanvallon, il attaque pas seulement sur le fond. Il attaque aussi la personne. Puis de toute façon, on
c'est
a le droit.
Sujet.
Mais de toute façon,
le président de la République.
Mais non,
le président de la République. Attention quand le président de la République.
Mais non, pas du tout.
Tenir,
pas
surtout
du
quand
tout.
On parle à un professeur aussi éminent
pas
que Rosanvallon.
Pas du tout. Le président de la République, ça n'est pas censé être quelqu'un qui laisse passer des critiques sans répondre. Au contraire,
mais il peut répondre. Mais
la démocratie,
je pense
c'est
que
de
pour
répondre.
Les Français, la polémique avec Pierre Rosanvallon, pardonnez-moi.
C'est un professeur au Collège de France. En fait, c'est tout en haut de la pyramide universitaire.
Mais c'est très bien. Mais d'accord, mais ça, c'est un argument d'autorité.
Exactement.
Votre part est assez, que... est assez paradoxal.
Mais j'y tiens.
Rosanvallon a écrit des très bons livres.
On a le droit de
mettre d'accord avec lui. Et Rosanvallon, c'est pas le pape.
Non.
Je veux dire...
Même le pape.
Ben, il n'est pas censé être infaillible.
Bon, mais est-ce qu'il apaise le président de la République en allant comme ça au contact des Français, en répondant du tac au tac, en discutant encore aujourd'hui quand on lui dit démission, il dit bah non, rendez-vous en 2027.
Bah oui.
Quand on lui parle de la réforme des retraites,
il dit rendez-vous en 2027, il dit je suis là jusqu'en 2027.
Bien sûr, oui. Bah, ça lui donne rendez-vous cette date-là. Alors est-ce qu'il apaise en allant discuter comme ça, en allant au contact?
Alors d'abord, s'il n'y allait pas et qu'il s'isolait, je pense que ça durcirait encore le climat. Et d'autre part, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un combatif, c'est quelqu'un qui aime bien, qui n'a pas peur, qui aime bien les échanges. Ce n'est pas le premier de ce genre, d'ailleurs. Hein. En plus, il y a une forme de spontanéité et dans les critiques, parce que j'entendais tout à l'heure une jeune femme qui y allait bien. Hein. Ça prouve quand même qu'on est dans un pays démocratique.
Qu'on est en démocratie,
Quand on entend quelqu'un, en plus, elle a vraiment pu parler un bon moment. Mm-hmm. Elle ne mâchait pas ses mots. Ce qu'elle disait était très partial, mais pas idiot. Ça intéressait. Et le président lui répondait, moi, je trouve que ça, c'est de la bonne politique. C'est du bon débat. Je ne vous dis pas que c'est idéal. On sait qu'on est dans une période très crispée, très anxiogène, pour toutes les raisons dont on a souvent parlé, et qui s'accumule et qui ne recule pas du tout, malheureusement. Là, je trouve que c'est de la démocratie en action.
Moi, j'ai trouvé que la séquence, notamment dans le collège, où il prend le temps de discuter avec les professeurs, etc., ça faisait très grand débat. Oui, il essaie de recréer un peu l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là, où il allait en province. Est-ce qu'il peut réussir une deuxième fois, finalement, à reconquérir les Français, en quelque sorte?
Je pense que ça va être compliqué, parce que déjà, la période est encore plus tendue. Je ne pensais pas que ça puisse l'être, mais là, la période est encore, le moment est encore plus tendu. Il n'y a qu'à voir, vous parlez de ce moment
après
dans le collège. Non, mais là, dans le collège... Il y avait toute une partie des gens qui ont été mis dehors, la porte a été fermée derrière elle. Enfin, il y a une espèce de tension en fait dans le pays qui se ressent en fait dans les endroits où il va. Et il a beau aller en Alsace, qui est plutôt une terre de droite, etc.
C'est vrai qu'il y a souvent plus de policiers et de gendarmes que de manifestants.
Exactement. Donc c'est très tendu.
À Ganges, que je connais très bien, c'est pas une tête de.
Non, vous avez raison.
C'est pas une terre de droite.
D'ailleurs, il était accueilli par le député insoumis qui a fait part de ça.
Qui d'ailleurs, je trouve qu'entre les deux. Il y a eu un dialogue indirect qui est intéressant.
C'est vrai. Non, mais en fait,
oui.
C'est de la dialogue. Démocratie. Mais je suis d'accord. Une partie de la démocratie, c'est effectivement qu'il puisse y avoir un dialogue entre les différentes parties prenantes.
Et des opinions contradictoires. Y compris en parlant à un président de la République, ce qui ne se passe pas quand même. Vous allez l'admettre, ça ne se passe pas dans 50 pays comme ça.
Tout à fait.
Même parmi les démocraties.
Tout à fait. Le problème, c'est que. À un moment, il faut aussi que le président puisse ne pas faire qu'entendre, mais qu'il puisse écouter et qu'il puisse agir en fonction de ce qu'il entend. Or ça, c'est ce qui semble fait se renforcer au fur et à mesure des années et des mois avec Emmanuel Macron, c'est qu'il entend, il accepte d'entendre. En revanche, il ne bouge absolument sur rien. Il aime entendre, exactement. Mais il ne bouge absolument sur rien.
Mais là,
ce qui est un problème est tout aussi démocratique.
Non, mais là, je ne suis pas d'accord. S'il s'agit de dire est-ce qu'il va revenir sur sa réforme des retraites, évidemment la réponse c'est non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il se contente dans cette histoire-là de parler? Non, parce que quand on regarde ce qui se passe, on voit très bien qu'il prend des décisions qui sont des décisions soit de précaution, soit des décisions d'amélioration progressive, mais que ça n'est pas un hasard. Je veux dire, s'il y a eu les bourses supplémentaires pour les étudiants, s'il s'est occupé des pêcheurs qui effectivement étaient en grande difficulté, si maintenant s'il s'adresse
aux enseignants,
etc. Et on sait que la semaine prochaine, Elisabeth Borne doit lui proposer au moins une dizaine d'objectifs de genre. Donc ça n'est pas revenir en arrière du tout sur la réforme, encore que sur la réforme des retraites. On va avoir une loi travail qui, quand même, ne changera rien sur le fond, mais améliorera quand même l'accompagnement. Bon, mais de toute façon, il est obligé, mais c'est ce qu'il fait aussi, il est obligé de bouger.
Et la vraie question, c'est est-ce que ça sera suffisant? Parce qu'effectivement, suffisant pour, comme il le dit lui-même, regagner la confiance des Français. Parce que ce sont, comme tout à l'heure Olivier l'a dit, ce sont des choses qu'il a déjà utilisées, ce sont des ficelles qu'il a déjà utilisées. Donner des petits trucs comme ça après avoir fait quelque chose, pour sortir d'une situation de tension extrême de la société, donner quelques petits trucs sortir le carnet de chèques, mais à quelques menus endroits. Est-ce que ça sera encore suffisant? Surtout qu'il n'a plus beaucoup de chèques.
Puisque vous me demandez mon avis, je vous le donne. Je crois qu'il pourra gouverner jusqu'au bout dans une très grande difficulté, mais je crois qu'il ne parviendra pas du tout à reconquérir sa popularité tant qu'il sera président. Alors, peut-être que 5 ans après...
Alors, à quoi ça sert aujourd'hui, alors, ce qu'il fait?
Bah, peut-être qu'il pense que c'est souhaitable de faire ce qu'il fait. Peut-être qu'il pense que c'est bien d'augmenter les enseignants.
Si vous dites de toute façon il va rester impopulaire pendant 4 ans, à quoi ça sert d'aller au contact de la foule?
Parce que s'il ne le fait pas, c'est-à-dire s'il s'enferme, c'est pire. Et parce que de toute façon, il ne peut que regagner au stade où il en est. Il ne peut que regagner une part de popularité. Il ne regagnera pas tout. Mais ça, il peut dédramatiser.
Et après,
ça signifie pas que les Français vont tomber amoureux de lui. Mais progressivement, ça va ressembler à ce dont il a envie, en tout cas, et qui est une forme, pas d'oubli, mais d'apaisement relatif.
Est-ce que vous n'avez pas peur que, à terme, ça soit excessivement problématique d'un point de vue politique? C'est-à-dire que derrière, en gros, il laisse les clés du camion à l'extrême droite. Vous parlez d'impopularité du président de la République, mais ce qu'il y a sous-jacent derrière, c'est aussi la croyance des Français dans, en gros, nos institutions démocratiques.
Pas forcément. Pas forcément, parce que je pense que ce à quoi on assiste maintenant, c'est au contraire plutôt un exercice démocratique. Et je pense que les Français sont très contents et de l'entendre se faire
après
attaquer.
Après avoir fait passer le 49-3, donc c'est là où c'est
un peu culotté. Mais le 49-3, contrairement...
Il dialogue après, finalement, après la fin du match.
Le 49-3, contrairement à ce que ont l'air de considérer vos amis, c'est une application stricte, une application dure, mais une application totalement constitutionnelle. Personne ne peut dire le contraire.
La Constitution, ce n'est pas non plus l'apanage de la démocratie.
Il
y a une Constitution en Corée du Nord.
Une Constitution, ça aide en démocratie.
Il y en a une en Corée du Nord.
Et
à Cuba, et à Venezuela, et en Russie. Partout, il y a des constitutions.
Oui, d'accord. Mais est-ce que notre Constitution est comparable à celle de la Corée du Nord ou à celle de Cuba?
En revanche, je pense qu'elle nécessite quelques améliorations. Et par exemple, ce 49-3, je pense qu'il faudrait l'enlever d'urgence.
Ah, moi, pas du tout. Alors là, pas du tout.
Chacun son opinion.
Ben oui, en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que le 49-3 qui a été voulu par tous les dirigeants de la 4ème République, compte tenu de la façon dont ils parlaient.
Et pas par le peuple, mais. On leur a jamais posé la question au peuple, est-ce que vous voulez du 49-3? Je pense que la réponse est assez claire, non.
Le peuple a voté la Constitution.
Oui, enfin, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps.
Alors, d'accord.
Mais ça fait sûrement pas ce que ça voulait dire.
C'est extraordinaire, tous les trois.
C'est la 5e République.
Vous avez rien dit. Vous avez face à des révolutionnaires.
J'ai corrigé, tous les deux. Vous êtes extraordinaires.
Même Madame Borne ne veut plus l'utiliser, vous voyez? Après l'avoir utilisé.
Alors, on attend de voir.
Elle-même, visiblement, elle a des doutes.
D'abord, je prends tous les paris qu'elle l'utilisera de nouveau. Premièrement, deuxièmement, le 49-3, ça a été considéré comme une des mesures principales pour permettre à l'exécutif de travailler même dans des conditions différentes.
Sortir de la 4ème République.
Et le général de Gaulle, le général de Gaulle avait lui-même dit dans les discussions à ce moment-là que le 49-3, c'était pour permettre de gouverner, même si on n'avait qu'une majorité difficile.
Merci Pablo Pio Vivien, merci Alain Duhamel.